L'accusation a poursuivi ses auditions pendant la période de Noël 1963 et a terminé le 29 février 1964. Nous avons eu un peu plus d'un mois pour examiner les témoignages et préparer notre défense. Dès le début, nous avions clairement montré que nous voulions utiliser le procès non comme une application de la loi, mais comme une tribune pour exprimer nos convictions. Par exemple, nous ne nierions pas notre responsabilité dans des actes de sabotage. Nous ne nierions pas qu'une partie d'entre nous avait abandonné la non-violence. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas d'échapper à une condamnation ni de l'atténuer, mais d'utiliser le procès pour renforcer la cause pour laquelle nous combattions, quel que soit le prix à payer. Nous allions moins nous défendre au sens légal du terme qu'au sens moral. Nous considérions le procès comme une continuation de la lutte par d'autres moyens. Nous accepterions de reconnaître ce que l'accusation savait être vrai, mais nous refuserions de donner toute information que nous jugions susceptible d'en impliquer d'autres. Nous pensions qu'il était essentiel que les Sud-Africains sachent que nous avions la volonté d'en finir avec la suprématie blanche par le biais de la révolution armée. Nous contesterions l'affirmation centrale de l'accusation selon laquelle nous nous étions lancés dans la guerre de guérilla. Nous accepterions de reconnaître que nous avions établi des plans pour entreprendre éventuellement une guerre de guérilla au cas où les sabotages échoueraient. Mais nous affirmerions qu'ils n'avaient pas encore échoué parce qu'on ne les avait pas encore suffisamment utilisés. En ce qui me concernait, la Cour avait suffisamment de preuves pour me condamner. Des documents écrits de ma main montraient que j'avais quitté le pays illégalement, que j'avais organisé l'entraînement militaire de nos hommes et que j'avais été derrière la formation d'Umkhonto Wesiswe. Je serai le premier témoin et, par conséquent, je donnerai le ton de la défense. En Afrique du Sud, les dépositions des témoins ne peuvent être que la réponse précise à une question. Je ne voulais pas m'enfermer dans ces limites. Nous avons décidé qu'au lieu de déposer comme témoin, je lirai une déclaration dans le box, tandis que les autres témoigneraient et répondraient à un contre-interrogatoire. Parce qu'un témoin qui fait une déclaration dans le box des accusés n'a pas à répondre à un contre-interrogatoire ni aux questions du juge. Sa déclaration n'a pas le même poids juridique qu'un témoignage ordinaire. Le lundi 20 avril, sous très haute surveillance, on nous a conduits au palais de justice, cette fois pour que nous commencions notre défense. Winnie se trouvait là, avec ma mère, et je leur ai fait signe en entrant dans une salle de nouveau pleine. Je me suis levé, je me suis tourné vers la cour et j'ai commencé à lire lentement. Je suis le premier accusé. J'ai obtenu une licence en droit et j'ai exercé en tant qu'avocat à Johannesburg pendant un certain nombre d'années, en association avec M. Oliver Tambo. Je suis actuellement condamné et prisonnier et je purge une peine de 5 ans de prison pour avoir quitté le pays sans autorisation et avoir incité des gens à faire grève. Je reconnais tout de suite que je suis une des personnes qui ont participé à la création d'Umkhonto Wesiswe et que j'ai joué un rôle éminent dans ces activités jusqu'à mon arrestation en août 1962. Après avoir dit cela, je dois aborder maintenant et un peu plus longuement la question de la violence. Certaines des choses dites devant la cour sont vraies, et d'autres fausses. Cependant, je ne nie pas avoir organisé des sabotages. Je ne l'ai pas fait avec témérité ou parce que j'avais un quelconque amour de la violence. Je l'ai fait après avoir analysé calmement et simplement la situation politique qui est apparue après de nombreuses années de tyrannie, d'exploitation et d'oppression de mon peuple par les Blancs. Je voulais faire comprendre à la Cour que nous n'avions pas agi de façon irresponsable, sans penser aux conséquences qu'impliquait le choix de l'action violente. J'insistais particulièrement sur notre volonté de ne causer aucune perte de vie humaine. Nous, membres de l'ANC, Nous avons toujours défendu une démocratie non raciale et nous avons toujours refusé toute action qui pouvait séparer les races plus qu'elles ne l'étaient déjà. Mais la dure réalité, c'est que 50 années de non-violence n'ont rien apporté d'autre aux Africains qu'une législation plus répressive et de moins en moins de droits. Peut-être n'est-il pas facile pour ce tribunal de comprendre, mais il est vrai que pendant longtemps, les gens ont parlé de violence, du jour où ils combattraient l'homme blanc et le vaincraient pour retrouver leur pays. Et nous, les responsables de l'ANC, nous les avons toujours convaincus d'éviter la violence et d'employer des moyens pacifiques. Alors que nous parlions de cela en mai et juin 1961, on ne pouvait nier que notre politique visant à créer un État non racial par la non-violence n'avait abouti à rien, et que nos compagnons commençaient à perdre confiance en cette politique et avaient des idées inquiétantes de terrorisme. Umkhonto a été créé en novembre 1961. L'expérience nous a convaincus que la révolte offrirait au gouvernement des occasions infinies pour un massacre aveugle de notre peuple. Mais c'est précisément parce que la terre d'Afrique du Sud est déjà imbibée du sang d'Africains innocents que nous avons senti qu'il était de notre devoir de nous préparer à long terme afin d'utiliser la force pour nous défendre contre la force. J'ai énuméré les terribles disparités existant entre la vie des Noirs et celle des Blancs en Afrique du Sud. Dans les domaines de l'éducation, de la santé, du revenu, dans chaque aspect de la vie, les Noirs étaient à peine à un niveau de subsistance, alors que les Blancs bénéficiaient du plus haut niveau de vie du monde et avaient pour objectif que tout reste ainsi. L'absence de dignité humaine que connaissent les Africains est le résultat direct de la politique de suprématie blanche. La suprématie blanche implique l'infériorité noire. La législation qui a comme but de protéger la suprématie blanche renforce cette notion. En Afrique du Sud, les tâches inférieures sont invariablement exécutées par des Africains. Quand il faut transporter ou laver quelque chose, l'homme blanc cherche autour de lui un Africain pour qu'il le fasse à sa place, que cet Africain soit ou non son employé. Les Africains veulent une part juste de l'Afrique du Sud. Ils veulent la sécurité et un repère dans la société. Et avant tout, nous voulons des droits politiques égaux. Parce que sans eux, notre impuissance sera permanente. C'est pour cela que combat l'ANC. Sa lutte est vraiment une lutte nationale. C'est une lutte du peuple africain qu'inspire ses souffrances et sa propre expérience. C'est une lutte pour le droit de vivre. Jusque-là, j'avais lu mon texte. Mais à ce moment, j'ai posé mes papiers sur la table de la défense et me suis tourné face au juge. La salle est devenue extrêmement silencieuse. En prononçant de mémoire les dernières phrases, je n'ai pas quitté le juge de Wet des yeux. Au cours de ma vie, je me suis entièrement consacré à la lutte du peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Mon idéal le plus cher a été celui d'une société libre et démocratique dans laquelle tous vivraient en harmonie et avec des chances égales. J'espère vivre assez longtemps pour l'atteindre. Mais si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Le silence dans le tribunal était maintenant absolu. À la fin de ma déclaration, je me suis simplement assis. J'avais lu pendant plus de 4 heures. Il était un peu plus de 16 heures et normalement la séance aurait dû être suspendue, mais le juge de Wet appela le témoin suivant. Il était déterminé à atténuer l'impact de ma déclaration. Il ne voulait pas que ce soit la dernière et la seule déposition de la journée. Mais rien de ce qu'il put faire n'en affaiblit l'effet. Quand je m'assis après avoir terminé ma déclaration, ce fut la dernière fois que le juge de Wet me regarda dans les yeux. Mon discours connut une très large publicité dans la presse locale, aussi bien qu'internationale, et il fut reproduit pratiquement mot pour mot dans le Rand Daily Mail. Cela en dépit du fait qu'il était interdit de publier ce que je disais. Ce discours indiquait notre ligne de défense tout en désarmant l'accusation, qui avait tout préparé dans l'attente de ma déposition comme témoin pour nier le sabotage. Il devenait maintenant évident que nous n'utiliserions pas les subtilités de la procédure et que nous accepterions la responsabilité d'action que nous avions entreprise avec fierté et préméditation. Walter Sisulu était l'accusé numéro 2. Il affirma que l'opération Mayibouye et la politique de guerre de guérilla n'avaient pas été adoptées comme politique de l'ANC. En fait, Walter dit à la cour qu'il s'était personnellement opposé à son adoption parce qu'il jugeait cela prématuré. Govan suivit Walter à la barre des témoins et raconta fièrement à la cour sa longue appartenance au Parti communiste et son engagement au sein du comité central. Le procureur lui demanda pourquoi, s'il reconnaissait beaucoup des actions de l'acte d'accusation, il ne plaidait pas simplement coupable pour la totalité. « Tout d'abord, répondit Govan, parce que j'ai senti que je devais expliquer sous serment certaines des raisons qui m'ont amené à rejoindre ces organisations. Pour moi, c'était là une question de devoir moral. » Ensuite, pour la simple raison que plaider coupable indiquerait, à mon avis, un sens de culpabilité morale. Je n'accepte pas qu'on attache une culpabilité morale à mes paroles. Comme Govan, Ahmed Katrada et Rusty Bernstein reconnurent leur appartenance au Parti communiste ainsi qu'à l'ANC. Rusty avait été arrêté à Rivonia au cours de la descente de police. Mais la seule preuve directe que l'accusation avait contre lui était l'assistance qu'il avait apportée à la construction de l'émetteur radio à la ferme. Dans un témoignage précis, Cathy nia avoir commis des actes de sabotage ou avoir incité d'autres personnes à en commettre, mais il dit qu'il soutenait de tels actes s'ils faisaient avancer la lutte. Raymond Mlaba était un des responsables de l'ANC et de MK dans l'Eastern Cape. Mais comme l'accusation n'avait pas beaucoup de preuves contre lui, il nia être membre de MK et connaître quoi que ce soit au sabotage. Nous avons décidé que ni Elias Motsoaledi, l'accusé numéro 9, ni Andrew Mlangeni, l'accusé numéro 10, ne devaient témoigner. Il s'agissait de membres peu élevés de MK, et il ne pouvait pas ajouter grand-chose à ce qui avait déjà été dit. Elias Motsoaledi avait été battu et torturé en prison, et pourtant il n'avait rien dit. Andrew Mlangeni, le dernier accusé, fit une déclaration sans prêter serment, dans laquelle il reconnaissait avoir porté des messages pour MK et s'être déguisé en pasteur pour faciliter son travail. Lui aussi informa la cour qu'il avait été battu en prison et torturé à l'électricité. Andrew était le dernier témoin. La défense en avait fini. Il restait les plaidoiries et le jugement.